Monsieur Corba, après avoir entendu l'exposé de Monsieur Gauthier par rapport à Industrie Bois, les commentaires qui ont été faits, soit par lui, soit déjà durant la journée, sur le problème des scieries, est-ce qu'on peut prendre cette question par cet angle-là? Et vous nous dites quelques mots sur la situation des scieries en Suisse. On va commencer par cela, si vous voulez bien.
Je crois que la situation a bien été résumée par Michael Gauthier. Je fais partie effectivement du tiers des rescapés de la branche de la scierie. Je suis en plus un acteur relativement atypique puisqu'on est spécialisé dans le feuillu. Et j'espère que c'est aussi une des choses qui nous permettra de rester encore dans le tiers qui restera dans 20 ans puisque, d'après ce qu'on nous dit, la part de feuillu devrait plutôt augmenter dans nos forêts. Et il est important d'essayer de trouver des valorisations pour les feuillus pour l'avenir. Je crois qu'effectivement en Suisse on a eu de gros problèmes ces dernières années dû à une concurrence étrangère très forte de pays qui ont des usines de grande importance avec des économies d'échelle que notre petit pays ne permet pas et avec des conditions cadres qui étaient peut-être plus favorables en particulier au niveau des coûts de transport par exemple où en Suisse on a des coûts de transport très élevés pour transporter du bois qui est un matériau pondéreux par rapport à sa valeur. La RPLP, on est le seul pays, je crois, qui taxe le transport, la mise à disposition de la matière première pour sa première transformation. Le transport coûte très cher dans notre pays, alors qu'il ne coûte pas assez cher dans les pays qui nous entourent ou à l'échelon mondial. Pour nous, faire venir le bois de nos forêts jusque chez nous à quelques 20 km, ça coûte 17 francs la tonne. C'est un peu près ce que ça coûte pour transporter du bois de Rotterdam à Shanghai dans les containers. Donc on n'est pas tout à fait... Il y a parfois des incohérences dans le marché mondial et dans la mondialisation qui ont fait justement la problématique qu'a décrite et la tendance qu'a décrite Michael Gauthier. Et je pense que la seule chance que l'on a, c'est plutôt de se focaliser sur de l'innovation, c'est ce qui a été montré tout à l'heure, et également dans des marchés de niche, là où on n'est pas obligé de faire des quantités aussi importantes que les produits de masse qui nous viennent de Scandinavie ou des pays voisins, qui ont, j'aimerais aussi le relever peut-être en préambule, ça peut être une base de discussion intéressante, des conditions complètement différentes en matière de coûts d'approvisionnement. Pour nous, ça a été dit ce matin, la première transformation, c'est exploiter le bois dans la forêt. Il faut gérer les forêts de façon durable, mais il faut aussi les exploiter à un coût qui convienne. Et effectivement, on est obligé de le constater, du fait du coût de la main-d'œuvre en Suisse et du fait également d'un contexte légal, législatif, qui fait qu'on veut faire les choses très bien, ça a été dit ce matin, hein. On jardine nos forêts de façon exemplaire, mais tout ça a un coût. Et effectivement, mettre à disposition du bois en Suisse à partir de nos forêts, ça coûte 40 à 60 francs le mètre cube de bois d'œuvre. En Europe, en général, de l'Ouest, ça coûte 20 euros. Ça a été dit ce matin également. En Roumanie, ça coûte 8 euros. Donc, ça, c'est clair que le propriétaire de forêt roumain est nettement mieux placé que le propriétaire de forêt suisse. Il faut trouver des astuces et des façons de remédier à cette problématique. Dans le domaine de la scierie, nous coûtons également un peu plus cher que nos voisins, mais quand même pas dans les mêmes proportions.
Quelle est la taille critique d'une scierie en Suisse?
La taille critique des scieries ces 30 dernières années a augmenté sans cesse et je pense qu'on est arrivé à une inflexion des courbes. Je pense qu'aujourd'hui, la tendance au consommer local, la problématique de la pollution liée au transport, la problématique des grandes forêts uniformes dont on a parlé ce matin également qui ont toutes sortes d'inconvénients à laquelle on préfère aujourd'hui la forêt mélangée font que la taille critique des scieries va certainement redescendre et pour nous, nous on est dans le feuillu, on exploite une bonne vingtaine de milliers de mètres cubes, on transforme une bonne vingtaine de milliers de mètres cubes, on en exploite un petit peu plus parce qu'on a aussi du négoce. Je pense qu'on est à une relativement bonne taille, mais c'est clair que dans le résineux, la taille critique est plus grande. C'est pour ça qu'effectivement, en Suisse, on n'a que quelques unités qui arrivent encore à tirer leur épingle du jeu.
Merci. Monsieur Zurbrugg, pour Swiss Chrono, vous nous dites deux mots pour ceux qui ne savent pas présenter votre entreprise. Et ensuite, bonjour. On écoute vos commentaires.
Vous m'entendez ? Oui, bonjour bien. À tout le monde. Moi, je présente la maison Swiss Chrono. Moi, je suis le acheteur du bois chez eux. On achète 800 000 mètres cubes par an. On est le plus gros utilisateur du bois en Suisse. On fabrique environ 400 000 mètres cubes des panneaux agglomérés et puis 290 000 mètres cubes du panneau MDF. 90% de ces panneaux qu'on fabrique, on fait des survaleurs, c'est-à-dire nous, on ne peut plus vendre des panneaux bruts parce qu'on est partout trop cher. C'est les mêmes difficultés comme M. Corbat l'a dit. Le transport, il coûte très cher. Même nous, on transporte environ 45% du matière par train. Mais comme le RPLP il coûte cher, le bois même, Franco, chez nous, à Menznau, c'est très cher. Un avantage qu'on a encore à Menznau, c'est qu'on produit 80% de notre énergie qu'on a besoin pour faire nos panneaux. On fabrique nous-mêmes. On brûle 12 à 15 tonnes du bois recyclé, par exemple de la maison socketerie qu'on a parlé cet après-midi. On brûle ça pour faire notre énergie. Et puis, dans le marché aggloméré, c'est très, très dur. Les Italiens, ils font des panneaux agglomérés à 100% avec du bois recyclé. Et puis nous, avant, on faisait 100% avec du bois frais de la forêt. Et puis maintenant, comme les prix sont très, très bas, on est obligé de mélanger un tout petit peu du bois recyclé propre. C'est-à-dire, c'est du bois qui vient de palettes, des caisses, qui n'est pas verni, vraiment du bois propre. On est obligé de mélanger dans les panneaux agglomérés pour être concurrentiel.
Est-ce que les gens savent encore ce qu'ils achètent quand vous procédez à ces mélanges? Vous venez de dire que maintenant vous introduisez un certain pourcentage de bois d'autres origines. Est-ce que l'acheteur sait finalement aujourd'hui ce qu'il achète?
Oui.
C'est présenté comme du bois suisse?
Oui, oui. Ouais. Notre label, on a le CH80. Et puis nous, on garantit que 80% du bois qui est dans les panneaux, c'est du bois suisse. Et puis un certain, environ 10 à 20% du volume, on a besoin que ce soit certifié PEFTS ou bien FSC.
Alors, vous êtes tout de même une entreprise, et tant mieux d'ailleurs, florissante.
On est florissant, mais le marché est très, très dur à ce moment-là. Comme on exporte vraiment 85% de notre marchandise, on exporte dans le monde. Et puis Swiss Chrono, ils ont 10 usines dans le monde. Alors on est partout dans le monde, mais le marché il est très dur, mais ça continue. Ouais.
Apparemment,
il faut se battre.
Apparemment, vous vous battez plutôt bien, malgré les difficultés. Bon, toutes nos entreprises semblent en difficulté, mais enfin, elles réussissent tout de même à surmonter cette adversité et non seulement d'exister, mais de prospérer parfois. Elles ont d'autant plus de mérite, mais il y a un certain nombre de choses qu'on doit prendre en compte si on ne veut pas que vous soyez dans des difficultés qui rendent les choses irréversibles. Monsieur Grulois, pour la FCBA, je vous donne la parole dans le prolongement des réflexions qu'on vient d'avoir.
Est-ce que je peux prendre quelques instants pour présenter FCBA?
Oui, oui, bien sûr. Hein?
Donc FCBA, ça veut dire Institut technologique, forêt, cellulose, bois, construction, ameublement. Donc c'est une organisation de 300 personnes qui est là au service des entreprises de la filière, donc pour apporter, je dirais, de l'innovation technique, les accompagner donc sous différentes formes, d'une part de la recherche, mais on est en recherche très appliquée, d'autre part en appui et conseil technique, donc là on est vraiment en action privée avec les entreprises. On fait également beaucoup de formations continues pour les entreprises. Et enfin, il reste deux volets. Il y a un volet qui concerne la certification de qualité, donc typiquement les chaînes de contrôle PEFC, FSC ou les marques de qualité sur les différents produits. Et puis enfin, il y a une activité également qui est la normalisation. Voilà. Donc voilà pour les modalités d'intervention. On couvre les champs, donc comme l'intitulé l'indique, de la forêt à l'ameublement. Sur l'ameublement, on est typiquement pas uniquement sur le bois, hein, c'est vraiment polymatériaux. Et puis entre les deux, il y a bien sûr la première transformation et l'approvisionnement des sites. Donc là, j'ai entendu des choses intéressantes et des problématiques bien sûr communes à nos deux pays. Et il y a bien sûr le pôle bois construction qui mobilise quand même une centaine de personnes sur les 300. Donc bien sûr, c'est dire aussi les enjeux qu'on met sur le développement des marchés de la construction et la nécessité d'accompagner les entreprises. J'ajoute qu'on a quelques pôles transversaux et notamment un pôle qui pourra vous intéresser puisqu'on a une équipe qui s'appelle Intec Fibre et qui n'est pas loin d'ici, elle est à Grenoble. Et donc cette équipe travaille sur la chimie du bois. Et elle est très réputée au niveau international. Et donc, effectivement, c'est un axe de travail, pas parmi d'autres, hein, mais c'est un axe de travail important que de travailler sur ces nouveaux débouchés.
Bon, la FCBA est en effet un acteur déterminant. J'hésite presque de demander à son directeur général de venir, qui est présent, et je vous dirai quelques mots tout à l'heure, de venir prendre la parole. Mais vous pouvez reprendre, vous exprimer sur les difficultés qui ont été dites tout à l'heure par vos collègues suisses de cette table ronde par rapport à la concurrence. Comment vivez-vous cela en France aujourd'hui ? Peut-être que vos prix sont inférieurs aux nôtres, mais néanmoins, ils sont d'une manière assez substantielle supérieurs à des pays comme la Roumanie ou d'autres pays de l'Est, notamment.
Oui, absolument. Alors, moi, je vais surtout, ma spécialité, donc, c'est plutôt l'approvisionnement. Donc, je vais plutôt peut-être vous donner quelques exemples d'actions ou de projets en cours sur ce volet-là. Donc, typiquement, en ce moment-là, on travaille sur un projet qui consiste à essayer de lever les freins un peu sur comment mobiliser la ressource en propriété privée. Hein, on a dit, je pense, dans la matinée que ça représentait à peu près 75% de la ressource en France, hein, qui est détenue par des propriétaires privés. Et on sent qu'il y a une difficulté en termes de commercialisation de ces bois. Donc comment toucher les propriétaires privés et comment faire en sorte qu'ils commercialisent leur bois, et sachant qu'un grand nombre d'entre eux échappent complètement au circuit de la vulgarisation et aux organismes qui s'occupent de la propriété privée en France. Donc, voilà. Et d'autre part, on a un besoin de massification, hein, parce qu'on a beaucoup de petits lots de bois. Et encore une fois, aussi ce matin, on l'a dit, si on peut travailler à des échelles géographiques plus importantes, c'est tout bénef en termes d'économie d'échelle, d'efficacité aussi pour les équipes, hein, qui font la récolte, les bûcherons, les débardeurs, qui ont besoin d'avoir de la visibilité pour investir, etc., qui ont besoin de s'installer de manière parfois un peu durable sur les massifs. Donc ça, c'est un enjeu fort. Il y a aussi des nouvelles techniques, peut-être de débardage qui vont apparaître et qui vont nécessiter de raisonner à des échelles géographiques un peu plus grandes. On parle de débardage par ballon, enfin, et le transport ensuite. Et donc ça, ça nécessite de pouvoir aborder les massifs forestiers sur des surfaces relativement importantes. Et donc l'idée, en fait, c'est que l'on travaille depuis quelques années avec la Coforêt, avec l'ONF, c'est de voir comment on peut mutualiser les approches en forêt privée et en forêt publique pour, je dirais, embarquer tout le monde, finalement, dans une même dynamique. Et l'avantage pour la propriété privée, bien sûr, c'est qu'elle soit, et les propriétaires qui vont peut-être vendre leur bois une seule fois dans leur vie, qui ne savent pas éventuellement qu'ils sont propriétaires, on l'a dit aussi ce matin, de les embarquer, de les rassurer, je dirais, dans une dynamique d'ensemble. Et dans cette dynamique, on espère également, je dirais, mouiller les communes et les élus de ces communes, là encore une fois, pour rassurer les propriétaires et faire en sorte qu'ils suivent un peu une première vente autour de laquelle on va donc massifier et rassembler la propriété privée. Voilà, ça c'est un exemple de nouvelle organisation d'acteurs qu'on essaie de mettre en place. Alors comme je disais, on n'est pas les acteurs principaux, hein, c'est plutôt ONF Coforêt, hein, c'est eux qui exploitent, qui coupent, qui revendent le bois. Mais on est là à la fois, je dirais, en observation et pour synthétiser un peu ce qui se passe et puis pour émettre des idées à mettre en place par les uns et les autres.
Merci. Monsieur Corbat reprend la parole.
Oui, ça fonctionne, oui. Oui, vous direz qu'effectivement, la problématique de la forêt privée qui n'est pas assez mobilisée est une problématique que l'on connaît également en Suisse. On n'a pas trouvé encore de remède miracle pour mobiliser les privés. Effectivement, c'est d'autant plus difficile dans notre pays aussi, encore plus qu'en France, que le rendement net que l'on peut attendre en Suisse du fait des coûts d'exploitation forestière est encore en dessous de ce qu'il est chez vous. Donc la motivation des privés à couper les bois qui croissent dans leurs forêts est d'autant plus difficile à obtenir en Suisse. Et c'est vrai, on l'a dit ce matin, si on n'exploite pas du tout les forêts, elles croissent, mais le bois pourrit au fur et à mesure dans la forêt. Donc, on reste dans un environnement neutre en matière de CO2, mais sans absolument aucunement en profiter, ce qui est pas du tout le but de l'opération. Pour revenir peut-être sur les choses que l'on peut, sur une tendance que, à mon avis, il faudrait essayer de promouvoir, c'est vraiment d'essayer de mettre ensemble les collectivités et de promouvoir des collaborations à l'échelon local. On a déjà pas mal parlé durant cette journée. J'aimerais mettre en avant, par exemple, le fait qu'on a réussi à mobiliser les chaînes de la région genevoise pour en faire le ponton d'Arad. Je crois que ça, c'est de genre de petits exemples qui permettent de mobiliser à la fois les gens de la région, les transformateurs, et de faire tourner l'économie locale avec des résultats intéressants. On a réussi, par exemple, aussi, c'est des tout petites choses, mais avec la maison Carandache, qui est aussi dans la région d'ailleurs, et avec l'aide de l'IGNOM, de enfin faire des crayons avec autre chose que des bois américains. Alors on a fait les premiers Swiss Wood avec du hêtre suisse. Et dans la lancée, je crois qu'il y a quelques autres crayons qui se font. Malheureusement, fabriquer des crayons, ça utilise un petit peu moins de bois. Nous sommes également fabricants de traverses de chemin de fer. Ça utilise un volume de bois plus intéressant. Mais bon, voilà, les crayons suisses, c'était quand même aussi un point intéressant. Et j'aimerais dire deux mots d'un projet qui a été présenté à la presse pas plus tard qu'hier, qui va démarrer ces prochains temps, qui est le projet Fagus Suisse, dont l'idée est de valoriser mieux nos hêtres. Les forestiers l'ont dit ce matin, c'est quand même dommage de transformer en plaquettes et en bois énergie des hêtres de 60 cm de diamètre qui ont mis presque un siècle pour pousser dans nos forêts. Alors ça, je comprends que les forestiers soient un petit peu frustrés de la part du bois énergie dans le feuillu aujourd'hui. Et l'idée de Fagus Suisse, c'est justement de transformer en bois collé à haute performance, à destination de la construction, du secteur de la construction, les hêtres de tout notre pays. Alors j'espère que ce projet-là puisse aussi aider à travailler local, travailler suisse, et puis à valoriser le produit de nos forêts.
En ce qui concerne les crayons Carandache, les Vaudois, et en particulier mon collègue le président de l'IGNOM Vaud, Philippe Nicollier, a eu l'oreille de Carandache pour précisément cheminer dans cette direction-là. Et c'est pour vous dire que les relations intercantonales sont bonnes et puis qu'on peut descendre des diablerets pour répondre aux besoins de Carandache. Et puis vous allez partir tout à l'heure, cher M. Corba, avec un petit cadeau de Carandache et vous allez trouver précisément le produit que vous avez évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était un appel pour le recevoir, mais nous irons dans... vous n'étiez pas au courant, mais nous irons dans cette direction. Monsieur Zurbrugg, vous reprenez la parole.
Pour mobiliser du bois, on a fait vraiment du projet maintenant. On garantit le prix pour une année et puis on garantit aussi à quel mètre cube qui peut livrer nous par semaine. Et puis depuis là, ce qu'on a fait, les forêts, ils ont vraiment plus vite d'accord de nous préparer du bois que si on garantit tout.
Monsieur Gauthier, vous voulez ajouter quelque chose ? Monsieur Gauthier. Oui, alors je vous en prie. Oui, vous pouvez vous interroger entre vous, en effet. Ouais.
Je voudrais bien poser une question à Madame Delaunay-Tricaire. Concernant l'approvisionnement de bois, vous faites des produits dérivés qui sont très intéressants, qui me semblent vraiment... ça a l'air l'avenir. Mais au niveau approvisionnement, est-ce que vous voyez une évolution au niveau des prix? Et quelles espèces vous pouvez utiliser? Parce que moi, je constate que ouais, pour les scieurs, ce qui se passe avec les sous-produits, c'est vraiment très, très important. Et si ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne pas avec le sous-produit, on peut oublier aussi le reste.
Oui, ça va venir. On n'a rien besoin de faire, c'est, ça se règle depuis là-haut. C'est bon.
Oui, donc par rapport au produit que je présentais, donc en fait, nous, on part non pas de bois lui-même, à Weidmann, on part de cellulose, de pâte à papier. Cette pâte à papier a été travaillée et en Suisse, n'ayant plus d'usine de pâte à papier, on est obligé d'importer nécessairement notre matière première d'Europe ou voire plus loin encore du Canada parce que on n'a pas la matière associée. Après, par exemple, on a fait un test et des études en collaboration avec Bafou pour voir comment on pourrait valoriser le hêtre suisse. Et donc, on a réussi, avec l'aide du Centre technique du papier en France, à faire, en partant de bois suisse, à faire une cuisson et un blanchiment pour obtenir en petite quantité de la pâte à papier qu'on a retravaillé en microfibre de cellulose. Et donc, on a réussi à produire un produit 100% suisse avec de l'eau du lac de Zurich, avec du bois de la région de Zurich, et on a obtenu des qualités qui sont similaires à ce qu'on obtient en utilisant, par exemple, des fibres longues qui peuvent venir de Finlande ou du Canada.
Si un jour vous voulez venir au bord du Léman, notre eau n'est pas mal aussi.
Je vais réfléchir.
Vous vouliez réagir?
Oui, enfin je voulais préciser qu'effectivement, pour les feuillus, pour notre institut, c'est également des enjeux très forts, hein, considérant la ressource française, on l'a vu en tout début de matinée, qui est très importante. Et donc, on travaille beaucoup, ces dernières années, on a beaucoup travaillé à caractériser certaines essences, type robinier, hêtre, etc., parce qu'il y avait encore un manque de connaissances, et puis surtout, dans la perspective de normaliser un certain nombre de produits, je dirais, c'était nécessaire de préciser les caractéristiques technologiques. Et puis bien sûr, on a une ressource qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Donc, effectivement, est-ce que la chimie du bois peut demain apporter des solutions, mais sans oublier les produits pour la construction. Enfin, voilà, c'est vraiment un sujet, les feuillus, très important et sans doute source de collaboration, puisque c'était un peu le fil conducteur quand même de toute la journée. Donc là, pour vous dire qu'on est aussi à votre disposition pour parler projet Interreg ou autre, et travailler ensemble sur ces sujets d'importance.
Oui, je vous en prie, madame.
Je voudrais juste rajouter un point aussi que assez important, c'est que la Suisse pourrait aussi, dans certains cas, s'inspirer, par exemple, des pays scandinaves qui, eux, ont vraiment l'économie du bois en tant qu'économie principale et donc qui aussi cherchent non pas seulement à utiliser le bois pour les applications classiques, mais qui sont aussi énormément en avance sur nous par rapport aux nouvelles innovations. Quand je parlais tout à l'heure d'une usine de bioproduits, celle-ci existe déjà en Finlande. Ce n'est pas non plus une vision d'ici 20 ans. C'est juste avoir aussi l'idée de se dire la Suisse n'a-t-elle pas besoin actuellement de déjà penser aussi à l'innovation pour ne pas aussi être retardée par rapport à d'autres pays. Par exemple, en Finlande, j'imagine que si les gens arrivent à valoriser les déchets de scierie pour en faire des produits de valeur ajoutée, ils peuvent peut-être penser à aussi réduire dans ces cas-là le coût de la matière noble, qui est par exemple qui peut être des résineux pour en utiliser d'autres. Et donc ça veut dire que le prix de vente qui va être fait en Finlande va encore de ces matériaux va encore être plus bas, et donc ça va être encore peut-être plus compliqué pour la Suisse d'être compétitive sur ce point-là.
Sommes-nous en retard ? Ah ben, si je comprends bien, on évoque des pays comme les pays du Nord en particulier, dans un certain nombre de domaines et dans l'innovation. On a parlé de l'Autriche et de l'Allemagne dans l'économie forestière en général, qui font la course devant nous. Et on tente de s'en sortir malgré toutes ces difficultés. Alors maintenant, on va y arriver dans quelles conditions ? On a une impression particulière. Il y a de gros efforts qui sont faits pour booster l'ensemble de la filière. Et en même temps, est-ce qu'on arrive véritablement à se fixer de nouveaux objectifs précis ?
Vous voyez ? Je crois que sur le plan de la connaissance, on n'est pas en retard. Et d'ailleurs, on est souvent en coopération avec les grands instituts scandinaves, hein, dans des projets européens. Par contre, la difficulté, c'est peut-être le transfert, quoi. Enfin, l'appropriation par l'industrie. Alors c'est vrai qu'en France, on voit plutôt l'industrie, comme ici, je pense, l'industrie de la pâte à papier, avec le concept de bioraffinerie, c'est-à-dire sur un même site, comme vous l'avez exposé, comment on peut faire les différents types de produits. Mais voilà, et d'ailleurs, il y a déjà un site en France, à Tartas, hein, qui travaille plus sur la pâte à papier, alors que historiquement, c'était sa spécialité, maintenant qui travaille uniquement sur des produits dérivés de la cellulose, etc., pour la peinture, pour la cosmétique peut-être, mais surtout la peinture, et, je crois. Et donc voilà, c'est l'appropriation, et puis c'est un changement de culture, quoi. On a fait de la pâte à papier pendant des décennies, et là aujourd'hui on veut élargir le champ, donc voilà, ça prend du temps. Mais en tout cas, la connaissance est là, et je pense que voilà, on avance vraiment vers un transfert vers ces grands sites, enfin ces grands groupes industriels.
Bien, mesdames et messieurs, ce matin, j'ai évoqué le point d'origine en quelque sorte de cet événement, et j'ai cité bien entendu Bordeaux. Et vous êtes là, monsieur Mathieu, directeur général de la FCBA, et puis monsieur Molinier, qui est l'animateur de ces rencontres de Bordeaux. Et indiscutablement, vous nous avez donné une impulsion. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même filière parce que vous avez à Bordeaux parlé que des constructions en moyenne et grande hauteur. Nous avons voulu traiter la filière dans sa totalité. Je crois que nous n'avons pas tort, pour ne pas formuler ça autrement et dire qu'on a raison, que vous n'auriez pas raison. Mais je crois que vous n'y couperez pas, en quelque sorte, d'aborder la filière dans sa totalité. Et depuis ce matin, on se rend bien compte de l'imbrication qu'il y a véritablement entre la gestion de la forêt et ensuite sa réalisation. Parce que si nous nous concentrons, c'est la raison pour laquelle on l'a lancé, en quelque sorte, nous sommes lancés ce défi de traiter de tout cela sur 3 jours avec 80 personnes qui interviennent, c'est parce que nous voulions véritablement capitaliser des informations sur la totalité de la filière. Mais en tous les cas, merci d'avoir organisé ce que vous avez fait. On était plus de 2000 personnes de 21 pays. C'était une impulsion. Et j'avais l'impression d'être dans le prolongement de COP21. J'avais eu le privilège d'y participer. On était dans ce prolongement-là en passant à des actions concrètes et surtout en donnant des envies. Parce que c'est ça, on parle de choses avec beaucoup de rigueur, mais à un moment donné, en termes de sensibilisation, il faut créer des envies. Il ne s'agit pas simplement d'aller dans telle ou telle direction parce que c'est bien. Faut-il avoir encore du plaisir à y aller, que ce ne soit pas des contraintes supplémentaires. Alors vous avez, l'année dernière, on était à Bordeaux. Cette année, on sera au Québec, puis ensuite au Japon. C'est ce qui est prévu. Et vous nous aviez dit en partant, en somme, accaparez-vous en quelque sorte de cette démarche. Soyez actifs là où vous êtes, là où vous habitez. Alors c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés avec notre petite délégation suisse. On a réfléchi et voilà dans quoi nous sommes engagés. Mais nous devons rester tous mobilisés. Nous devons rester tous mobilisés et d'une manière géographique bien précise, de manière à pouvoir agir de manière concrète. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu que cet événement se déroule, qu'on se concentre entre Jura et les Alpes, parce qu'il y aura des actions concrètes qui seront suivies. Mesdames et messieurs, j'ai un petit problème d'horaire. On m'avait tellement dit qu'il fallait que je fasse attention d'être dans les temps, que oui, et puis avec votre aide, des intervenants les uns et les autres, nous sommes dans les temps, mais nous avons, et M. Hodges, le président du gouvernement, va arriver à l'heure qu'on lui avait indiqué, c'est-à-dire à 5h30. Mais c'est une chance. C'est une chance parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu le temps d'aller au premier étage où il y a une magnifique exposition sur le thème de la cellulose. Et on en a parlé assez largement, mais je vous garantis qu'elle mérite d'être visitée. Et c'est la raison pour laquelle je vous suggère de monter au premier étage. Et ensuite, on se retrouvera avec M. le conseiller d'État, ici présent. Merci, M. le conseiller d'État, président de la conférence des conseillers d'État chargés des forêts, notamment, d'être venu jusqu'ici. Vous nous donnez une dimension nationale. Vous ne pouvez pas rester quand même entre Welches, n'est-ce pas? Et donc, on apprécie que vous soyez ici. Donc, on se déplace. Et puis après, avec M. Hodges, vous pouvez intervenir. Mme Guiche interviendra également à ce moment-là dans les conclusions. Mais on attend que M. Hodges soit nous rejoigne.